Alors ce matin, j'ai à cœur de voir un autre personnage de la Bible avec vous. Si vous voulez ouvrir vos Bibles en 1 Chronique 16. Donc on va voir ce matin ensemble un certain Asaph. Voilà. Donc pour information ou culture biblique, il y a trois Asaph dans la Bible. Il y en a un qui est le père du secrétaire d'Ézéchias. Il y en a un autre qui est intendant perse de la forêt royale. Donc on ne va pas rentrer en détail là. Et puis il y en a un troisième, c'est celui qu'on va voir ce matin, qui est un certain fils de Bérékia, qui a écrit des psaumes, 12 psaumes exactement, qui est donc lévite, et on va en parler un petit peu ce matin. Donc avant de rentrer dans plusieurs textes bibliques là, sachez que Asaph, ça veut dire, parce que vous savez, tous les prénoms hébreux ont une signification, hein, ils ne donnent pas des noms et des prénoms au hasard, ça avait un sens. Asaph, ça veut dire celui qui rassemble. Ou alors, on pourrait traduire aussi par celui qui récolte ou qui recueille, comme après une moisson en fait. Donc on va rester sur celui qui rassemble, il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Hein. Donc Asaph, c'est le temps du roi David, d'accord ? Donc au temps du roi David, Asaph, on va le voir, a été nommé chef des chantres. Alors ça veut dire chef des chanteurs, si vous voulez, chef des musiciens, chef des choristes, chef de la musique pour Dieu, voilà. Donc si du temps de David, au début du règne de David, hein, il est nommé chef des musiciens, il a dû naître, on imagine, du temps de Saül. Hein, il devait être un petit peu plus jeune que David, peut-être, on ne sait pas trop. Donc il a vécu dans cette période où Israël, pour la première fois, avait un roi, Saül. Et un roi qui a bien commencé, si vous regardez l'histoire de Saül, mais qui a mal terminé, malheureusement, hein, mal continué et mal terminé. À un moment où le peuple savait plus trop, finalement, vers qui il devait se tourner. Est-ce qu'il devait se tourner vers Saül ou est-ce qu'il devait se tourner vers David ? Tout le monde voyait bien que le petit David, qui est devenu grand David, le petit David, c'était pas n'importe qui. Il avait terrassé Goliath, c'était pas rien. Il remportait des victoires sur les Philistins d'une façon assez spectaculaire, c'était pas rien non plus. Et on voyait bien quand même que, plus ou moins... Même si ça n'avait pas été officialisé encore, eh ben David, sans aucun doute, il était celui que Dieu avait choisi pour succéder à Saül. Et Saül était quand même de plus en plus rejeté. En tout cas, ça se voyait de plus en plus pour le peuple. Hein. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait une hésitation parmi le peuple ? La Bible ne donne pas plus de détails que ça. Mais sans doute, il devait hésiter. Quoi. Est-ce que c'est Saül ? Est-ce que c'est David ? Il y avait des petites chansons qui circulaient. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans la Bible. Hein. David... Saül en a tué 1000 et David, lui, il a tué ses 10 000. Hein, donc, voilà. Donc lui, il naît, voilà. Asaph va naître dans cette période un petit peu. Hein, il va voir toutes ces choses dans son enfance, en grandissant. On va voir que Asaph va s'attacher à David. Alors, c'est pas marqué dans... Il n'y a pas un passage, vous savez, par exemple, on a David et Jonathan. Vous savez, alors ça, c'est évident, c'est clair, on le voit dans le texte. Hein, l'âme de David s'attacha à l'âme de Jonathan. Ils sont devenus une seule âme tous les deux. Ils avaient vraiment une amitié qui était une intimité ensemble. Ils aimaient l'Éternel, ils voulaient servir l'Éternel ensemble. Jonathan, qui était le successeur, normalement, avait reconnu directement la royauté de David. Ça, on le voit dans le texte. On ne voit pas nécessairement l'amitié entre Asaph et David, mais en étudiant un petit peu Asaph, je me suis dit, mais ils devaient être vraiment liés, en fait, tous les deux. David, combien de psaumes David a composé ? Et Asaph en a composé une douzaine. Alors, c'est une douzaine écrite, là, dans la Bible. Hein. Ça veut dire qu'il en a composé d'autres qui ne sont pas dans la Bible. Hein. Asaph n'est pas limité à ces 12-là, bien évidemment. Hein. C'était son métier, c'était son rôle aussi de composer des cantiques. Donc, deux hommes qui aimaient Dieu de tout leur cœur. C'est David qui a dit à Asaph, tu vas être le chef des musiciens. Ils ont dû avoir une amitié. Ils ont dû rester soudés, malgré tout ce qu'a pu vivre David après. J'imagine, même si ce n'est pas marqué, qu'Asaph était toujours avec lui, qu'il a dû l'accompagner. Et je pense que ça devait être encourageant pour David d'avoir Asaph à côté. Vous savez, quand on regarde les psaumes, justement, on voit un petit peu les épreuves par lesquelles est passé David. C'est assez terrible. Hein. On le voit quand on lit les livres historiques, mais on le voit aussi dans les psaumes. On voit les états de son cœur, de son âme. Et parfois, on a l'impression que David, il est tout seul. C'est vrai, on a l'impression, il mince, alors moi seul je suis là, et il y a mes ennemis qui arrivent, je me sens seul, je me sens faible. Mais si vous regardez l'histoire de David, vous voyez que David, il est jamais vraiment seul en fait. Parce que les hommes pieux attirent les hommes pieux. Les hommes qui craignent Dieu attirent les hommes qui craignent Dieu. Et donc automatiquement, des hommes vont s'agglutiner un petit peu là autour de David, et Asaph en fait partie. Asaph en fait partie. Et pour David, avec ce qu'il a vécu, avoir quelqu'un à côté de lui qui s'appelle celui qui rassemble, eh ben, je pense que ça devait être encourageant. Bon, nous, on ne s'appelle plus par des prénoms comme ça. Mais je sais pas, on imagine que Romu ne s'appelle pas Romu, qui s'appelle, je sais pas, celui qui m'encourage. D'accord ? Donc je prends mon téléphone, je vais envoyer un texto à Romu, et puis j'envoie un texto à celui qui m'encourage. Rien que le fait de voir le nom de Romu, je suis encouragé, quoi. C'est celui qui m'encourage. C'est génial. À l'époque, c'était comme ça. Hein. Les noms avaient une signification. Donc David avait toujours celui qui rassemble à côté de lui. Donc déjà, rien que ça, ça devait lui faire du bien. Alors on ne sait pas énormément de choses non plus sur ce fameux Asaph. Hein. On sait qu'il est fils de Béréka. Dans 1 Chronique, chapitre 15, juste avant. 1 Chronique, chapitre 15. Alors, dans le contexte de ce qui s'est passé ici, l'Arche de l'Alliance, David a décidé, tiens, et si on faisait monter l'Arche de l'Alliance à Jérusalem ? Ça n'a pas été fait du temps de Saül, ça avait été négligé, ça avait été oublié, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous, on va le faire. Il le fait mal, si vous vous rappelez l'histoire. Hein, il met sur un char avec des bœufs qui le tirent, au lieu d'utiliser les Lévites ne sont pas là au moment où ça se passe. Il y a un homme qui veut rattraper l'arche parce qu'elle tombe, il est foudroyé directement par Dieu parce qu'il a touché l'arche sacrée. Dieu avait défendu, il n'y avait que les Lévites qui pouvaient s'en approcher, qui pouvaient faire le service de l'arche, ainsi que les sacrificateurs. Du coup, il laisse l'arche dans un chez un gars là qui passait par là, un gars qui avait un champ par là, hein, une maison, et tiens, bah, on va laisser chez toi. Il s'appelle Obed quelque chose, on va pas rentrer dans les détails. Il laisse l'arche là, et puis après, David dit non, là on va amener l'arche à Jérusalem, mais on va faire les choses bien. Ce coup-ci, les Lévites, on va leur dire d'y aller. Comme ça, on risque pas d'avoir un deuxième problème. Et donc, en 1 Chronique 15, on en est là. Et au verset 17, il est dit, les Lévites disposent... Bon, on va partir du verset 16. David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec les instruments de musique, des luttes, des harpes, des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants, en signe de réjouissance. Ils faisaient la fête en même temps qu'ils avançaient. Les Lévites disposèrent Héman, fils de Joël, parmi ses frères Asaph, fils de Béréka, c'est notre Asaph, et parmi les fils de Merari, leur frère Ethan, fils de Cushaja. Voilà. Et au verset 23, il est dit « Béréka et Elkana étaient portiers de l'arche. » Donc le papa d'Asaph était un Lévite. Un Lévite en Israël, si vous naissiez dans la tribu de Lévi en Israël, vous aviez un ministère tout prédisposé devant vous. C'est vous qui deviez vous occuper de faire le culte et le service à l'Éternel. Si en plus de ça, vous étiez né dans la famille d'Aaron, vous étiez sacrificateur. Si vous étiez le fils aîné, peut-être souverain sacrificateur. Bon, il n'y en avait qu'un. Il fallait être celui qui était le premier, là, pour le coup. Mais sinon, vous étiez sacrificateur. C'est dans cette famille-là qu'est né Asaph. Il est né dans une famille dont le papa était lévite. Le job de son papa, c'était de servir l'Éternel avec l'Arche de l'Alliance, la cuve des reins, l'autel des sacrifices, etc. C'était son boulot. Donc, le petit Asaph, depuis qu'il est tout petit, il voit son papa qui tous les matins répète le Shema Israël, qui tous les matins va faire le service et qui s'occupe des choses de Dieu. Il n'est pas question de sa maman, on n'en parle pas. Mais pour le papa, c'était son boulot. Okay. Donc ce matin, j'étais dans ma glace, dans la glace de chez Agnès, j'étais en train de me raser. Je me suis dit, tiens, je me demande quelle aurait été ma journée si j'avais été Béréka ou Asaph. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui serait passé aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais fait C'est curieux. Et voilà, le petit Asaph, lui, il voyait son papa tous les matins. Voilà, il se préparait, il mettait sa robe de sacrificateur, enfin, il n'était pas sacrificateur, de lévite, hein. Il s'habillait, puis il allait faire son service. Ben, j'imagine que ça devait l'impressionner. Et puis lui-même, né dans cette famille, il était tout disposé, il devait suivre, hein, et aller marcher avec l'Éternel, lui aussi, et servir comme son papa le faisait. Et son papa n'a pas n'importe quoi comme rôle ici, il porte l'Arche de l'Alliance. C'est un privilège qui est immense. Je ne sais pas si... Nous, on n'imagine pas trop. On essaie d'imaginer, mais on n'arrive pas à imaginer. Il portait l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance symbolisait la présence même de Dieu parmi le peuple. Elle symbolisait la puissance et la sainteté de Dieu. Et son papa, son boulot, c'était de transporter l'Arche d'Alliance. Il y en avait quatre qui la transportaient. Il en faisait partie, son papa. C'était un privilège qui était immense, immense. Et lui, qu'est-ce qu'il allait faire dans la vie? Alors a priori, il était habile pour la musique. Il était habile pour les chants. Et donc on va lire 1 Chronique 16, 1 à 7. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Donc là, on est à Jérusalem. Hein. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ça veut dire de remerciement. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les actions de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. On ne va pas rentrer dans les détails. Verset 4. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second, après lui, Jehiel, Shemiramoth, Matitia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jehiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs, Benaja et Jahaziel, sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Ben voilà, voilà son job à lui. Le boulot d'Asaph, à partir de maintenant, c'est de célébrer les louanges de l'Éternel. David a dit, à partir de maintenant, tu seras consacré à cette chose-là, à ce ministère-là. Et si vous allez au verset 37, il est dit, parce que là, après, il y a un psaume, justement, un cantique, hein, qui est chanté. Au verset 37, il est dit, « David laissa là, devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, afin qu'ils soient continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. » Donc Asaph, quand il se rasait devant sa glace le matin, juste après, eh ben il allait... Non, il ne se rasait pas, je sais. Oui. Il ne se rasait pas, Asaph. Ou peu. Mais il allait devant l'arche de l'Alliance. Ça aussi, c'est un privilège qui est immense. Vous savez, il n'est pas question, si vous lisez l'Ancien Testament, parce que là, on est dans l'Ancien Testament, du coup, il n'est pas question de beaucoup d'hommes qui restaient devant l'arche de l'Alliance. Hein. Je pense qu'on peut les compter sur... peut-être les doigts des deux mains quand même, hein. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a peu. Et il y a Josué. Josué, il est dit qu'il restait dans la tente. C'est curieux. Hein. Moïse, bien sûr, aussi. Et Asaph en faisait partie avec ses frères. Ils n'étaient pas devant, juste devant, hein. Mais ils étaient quand même à une distance, mais peut-être, hein. Il y avait le voile entre les deux, sans doute. Mais ils étaient devant l'arche de l'Alliance, et c'était un privilège immense. Ils étaient dans la présence de Dieu. Moi, j'ai pensé tout de suite au privilège immense que nous avons en Jésus-Christ de pouvoir nous adresser directement à Dieu, de pouvoir faire monter nos louanges. On n'a pas besoin maintenant de venir devant ce pupitre, parce qu'il est sacré, vous savez. C'est le pupitre de l'église baptiste du centre de Perpignan, en plus, ça rigole pas. Non, je vous assure, j'en ai vu d'autres, des pupitres, mais pas comme celui-là. On n'est pas obligé de venir ici devant ce pupitre, mais c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est la liberté que nous avons en Jésus-Christ. C'est ça qui est beau pour nous qui sommes enfants de Dieu. Je n'ai pas besoin de venir juste devant là pour faire monter mes louanges à Dieu. Je suis dans ma chambre chez moi, je chante un cantique quand je me lève le matin. J'imagine qu'Asaph, quand il se levait le matin, il devait chanter des cantiques. Hein, parce que son boulot, c'était de faire des cantiques à longueur de journée. Alors j'imagine que même la nuit, ça avait tourné dans sa tête et il devait se lever le matin en chantant des cantiques aussi, à l'Éternel. Hein. Mais dans ma chambre, je peux chanter un cantique. Dans la rue, je peux chanter un cantique. Je peux louer l'Éternel, peu importe là où je suis. Parce que comme Jésus-Christ est mon sauveur, il habite dans mon cœur. La Bible dit « Je suis le tabernacle de Dieu ». Dieu habite en esprit à l'intérieur de moi. L'arche de l'Alliance, elle est à l'intérieur, là, elle est dedans. Donc toute ma vie peut être une vie de louange. Toute ma vie, je peux célébrer l'Éternel. Je peux le louer. Je peux chanter des cantiques. C'est extraordinaire. J'ai un privilège qui est plus grand qu'Asaph. Asaph, fallait qu'il se déplace pour aller devant. Moi, j'ai pas besoin. L'arche de l'Alliance, elle est dans mon cœur et hop là, partout où je suis, elle est avec moi. Parce que j'ai reconnu que Jésus-Christ était mon sauveur. Parce qu'un jour dans ma vie, j'ai reconnu qu'il était mort pour mes péchés. Pour moi-même, personnellement, Tristan, au 21e siècle. J'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai cru que Jésus-Christ payait pour mes fautes, pour tout ce que j'avais fait. Je l'ai cru de tout mon cœur. Ce jour-là, l'Esprit de Dieu est venu habiter en moi. Il m'a régénéré, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Hein. Il m'a donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, si vous voulez. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Il m'a changé, il m'a transformé. Et depuis ce jour, j'ai un privilège immense. Ben même quand je suis devant ma glace, avant d'arriver devant à l'église ou quoi que ce soit, j'ai la présence de Dieu dans mon cœur. Et je peux le louer, je peux célébrer ses louanges. Même si ça sonne un peu faux, j'imagine qu'Azaph, lui, ça devait chanter bien juste, parce qu'il était habile pour ça. Mais c'est pas grave, c'est dans mon cœur et ça chante pour Dieu. Ça chante pour Dieu. C'est un privilège immense que nous avons en Jésus-Christ. Alors Azaph, lui, du coup, ça veut dire qu'il était là quand ils ont amené l'Arche d'Alliance à Jérusalem. De la bonne façon. De la mauvaise façon, il n'était pas là, mais il a entendu ce qui s'est passé. Ça circulait très vite, les nouvelles, vous inquiétez pas. C'est comme, ils n'avaient pas les textos comme aujourd'hui, mais ça allait tout, peut-être pas aussi vite, mais ça allait très très vite. Il savait ce qui s'était passé. Mais il était présent au moment où ça s'est bien passé. Il était là. Il était là quand David, du coup, a prié, invoqué l'Éternel sur l'Assemblée. Il était là quand la gloire de Dieu est venue aussi. Prenez 2 Chroniques, chapitre 5. David n'est plus. C'est Salomon qui est roi. Ok, donc là on est... comme c'était au début du règne de Salomon, au début du règne de David, là, qu'ils ont fait monter l'arche, sachant que David a régné 40 ans, on est à peu près 40 ans plus tard. D'accord ? Sachant que Salomon, la première chose qu'il a faite quand il est arrivé au pouvoir, quand il est monté sur le trône, il a construit le temple de l'Éternel. C'est une des premières choses qu'il a faites. Donc on est à peu près 40 ans plus tard. Donc 2 Chroniques 5, à partir du verset 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, donc là il est question du temple qui avait été construit, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient chantres, Asaph, Héman, Jedutun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bijoux, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Vous imaginez le bruit que ça faisait. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. On est à peu près 40 ans plus tard là. Et qui on retrouve toujours au même endroit, qui n'a pas bougé, toujours fidèle, on retrouve Asaph. C'est un témoignage qui est fort. Parce que donner son cœur au Seigneur, dire moi je suis pour le Seigneur, même je me fais baptiser, je marche avec Dieu, c'est quelque chose. Mais 40 ans plus tard, de voir que la personne est toujours là, toujours un cœur pour le Seigneur, toujours en train de servir, toujours zélé, toujours à l'œuvre, ça c'est quelque chose. Ça c'est un témoignage qui est puissant. Et là on en voit un. Asaph, les rois ont passé, du coup, de David on est passé à Salomon. J'imagine que d'autres ont dû passer autour, Quand vous regardez l'histoire, il y en a d'autres qui sont passés autour de lui. Mais Asaph, lui, il est toujours là. Et il est là au bon moment. Il est là au moment important. Quel moment important, la nuée, la gloire de Dieu qui remplit le temple de l'Éternel. À tel point qu'il ne pouvait plus rentrer pour faire le service. Tellement la gloire de l'Éternel était là. Il ne pouvait plus. Asaph, il était là. Il a tout vu. On s'est dit, mince alors. Moi, j'aurais bien aimé voir ça. Je sais pas vous. La première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, j'aurais bien aimé voir ça. Ah, mais c'est vrai quand même. Voir la gloire de Dieu qui descend là, qui remplit comme le mont Sinaï. Waouh, j'aurais bien aimé voir ça. A priori, ceux qui étaient là, ils n'étaient pas toujours contents d'être là. Mais moi, j'aurais bien aimé voir ça. Oui, mais si je ne suis pas fidèle, je vais louper les moments où Dieu agit. Je vais louper les moments... Le Seigneur a dit, t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? On lui a répondu, ah oui, à la résurrection. Il dit, non, pas que. Oui, c'est vrai, à la résurrection, mais maintenant déjà dans ta vie. Mais si je ne suis pas fidèle dans mon service pour Dieu, dans ma fidélité à la parole de Dieu, dans la communion fraternelle avec les frères et sœurs, parce que il nous est dit, psaume 133, que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Si je ne suis pas fidèlement là, présent, pour le Seigneur, je vais rater ces moments-là. Je ne les verrai pas. Mais si, comme Asaph, je garde mon cœur pour le Seigneur. Je reste fidèle, je reste zélé, je persévère avec Dieu. Ah, je peux vous assurer que vous allez en voir des temples se remplir, hein, de la gloire de Dieu. Pas de la même façon qu'à l'époque peut-être. Mais Dieu va intervenir dans votre vie. Et pour ceux qui ont marché avec le Seigneur et qui marchent avec le Seigneur, tous, on a des histoires à raconter, hein. On a vu Dieu agir dans notre vie, ou dans celle de quelqu'un d'autre, ou dans la vie d'une église, d'une assemblée, quand on est resté fidèle à une assemblée. On a vu Dieu qui a agi. On peut dire, là j'étais là, j'ai vu Dieu agir. Il a fait ceci, il a fait cela. Et non seulement on peut le dire, mais on peut le transmettre. On va y venir après aussi. Mais Asaph est un encouragement à rester fidèle et à persévérer. 40 ans après, il est toujours là. Et il voit les bénédictions de Dieu s'accomplir. Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais en fait, Asaph, il était aussi un prophète. Moi, je l'ai découvert en faisant mon étude, là. Il était aussi prophète. 2 Chroniques 29. 2 Chroniques 29, 30, il est écrit « Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. » Donc on est du temps d'Ézéchias, là, on est bien plus longtemps après, on est bien plus loin après, d'accord, hein. Et il dit du temps de David et du prophète Asaph, pardon, hein. Asaph. Si vous allez en 1 Chronique 25 aussi, 1 à 2, il est dit « David et les chefs de l'armée » donc là on est du temps de David, on est revenu, hein. « David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Jédutun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Netania et Acharela, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph qui prophétisait suivant les ordres du roi. » Vous voyez ? Asaph était aussi prophète. Moi, je ne le savais pas avant d'étudier la chose, hein. Les prophètes, il y en a plus que simplement les prophètes qu'on a dans la Bible, hein, qui ont écrit, hein. Il y en a d'autres en Israël, hein. Il y en a qui n'ont pas écrit, ou qui ont écrit mais qu'on n'a pas regardé. Mais il y en avait plein. Et ici, en tout cas, Asaph fait partie. Bah oui, parce que quand on est fidèle pour le Seigneur, Dieu nous utilise, hein. Dieu nous emploie d'une façon ou d'une autre, hein. Dieu n'est pas « Ah ben non, mon papa, il était lévite, alors du coup, moi, je suis obligé d'être lévite, et puis du coup, je ne ferai jamais rien d'autre dans ma vie que... » Bon, c'était son service, il devait le faire. C'est ce que Dieu aussi lui avait demandé, attention, hein, à travers la tribu de Lévi. Mais Dieu n'est pas limité. Puisqu'Asaph avait un cœur sincère pour le Seigneur, il s'est aussi servi d'Asaph pour prophétiser. Il s'est aussi servi d'Asaph pour d'autres choses, dont on ne sait pas d'ailleurs dans la parole de Dieu. Mais l'esprit était libre. Comme ça, vous savez qu'Asaph, c'était aussi un prophète. Si on vous demande la liste des prophètes, vous pouvez rajouter Asaph dedans. Ensuite, un témoignage que j'ai trouvé fort, c'est si vous voulez aller en Néhémie. Alors on se demande ce que vient faire Asaph en Néhémie, mais si vous allez en Néhémie, vous verrez. Donc Néhémie, là, on est bien après. Hein. Entre-temps, il y a eu la scission du royaume d'Israël, hein, en deux, royaume du Nord, royaume du Sud, la déportation à Babylone des deux royaumes, et puis le retour avec Esdras et Néhémie. Et en Néhémie, chapitre 12, verset 46, on retrouve notre cher Asaph. Donc on va lire à partir du verset 44. Donc en fait, parce qu'ils avaient reconstruit le temple, hein, sous Esdras. Donc, Néhémie 12, à partir du verset 44, « En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes. » Donc il est question du temple, au niveau du temple, hein. « Et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. » On ne va pas rentrer dans les détails. « Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions, selon l'ordre de David et de Salomon son fils, car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. » Là, vous êtes... J'ai pas compté, mais plusieurs centaines d'années après, là. Et vous avez Asaph qui revient encore. Du temps, et vous remarquez, hein, ça fait deux fois où Asaph est associé à qui ? À David. Hein. Quand je vous disais que les deux devaient être liés, même si on n'a pas vraiment de preuves dans la Bible, on le voit, ils étaient quand même là. Hein. Mais on retrouve Asaph. Son témoignage, son service pour le Seigneur, son zèle, son amour pour Dieu est passé de génération en génération. Il y a eu un héritage, il y a eu quelque chose qui a été transmis, un témoignage qui est resté. On n'a pas le temps de lire tous les psaumes qu'il a écrits, parce qu'il en a écrit 12. Ce serait magnifique, mais on n'a pas le temps. Il a écrit 12 psaumes. Si vous lisez ces psaumes, vous remarquerez, et je pense que c'était lié au travail de son papa, et aussi en même temps à son travail à lui, vous remarquerez une sensibilité d'Asaph pour la toute-puissance de Dieu et pour la sainteté de Dieu. Bon, quand son papa travaille à côté de l'Arche de l'Alliance, la sainteté de Dieu et la puissance de Dieu, on la connaît. Quand on a entendu parler de cet Uzza qui s'est fait foudroyer parce qu'il a touché l'Arche qu'il ne fallait pas, la sainteté de Dieu, ça marque. Hein. Et puis quand soi-même, notre service, c'est devant l'Arche de l'Éternel, de célébrer et de louer Dieu, la sainteté de Dieu, on la connaît aussi. Et puis quand on a vu comment Dieu a agi dans la vie de David parce qu'on était présent, et quand on a vu la gloire de Dieu remplir le temple parce qu'on était là, la gloire, la sainteté, la grandeur de Dieu, ben, on en connaît un petit peu quelque chose, parce que c'est bien plus grand que ce qu'on peut connaître. Mais quand même, on était là. Donc si vous lisez les psaumes d'Asaph, vous verrez, ça ressort, hein, ça ressort ce caractère. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Asaph, il a transmis ça. Vous savez, c'est... On va aller dans les psaumes quand même. On ne peut pas ne pas y aller. Psaume 78. Psaume 78. Psaume d'Asaph. Au verset 3, qu'est-ce qu'il dit ici? Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. C'est un exemple parmi les psaumes. Mais Asaph, il a écrit les psaumes en partie pour transmettre. Alors, c'était des psaumes de louange, c'était pour louer Dieu. Mais c'était aussi pour transmettre à ceux qui étaient autour et à ceux qui suivraient. Voilà qui est notre Dieu. Voilà ce qu'il a fait. Voilà comment il est grand. Voilà comment il est saint. Voilà comment on doit l'adorer. Voilà comment on doit se conduire en sa présence. Lisez les psaumes d'Asaph, vous verrez. Parce que il avait à cœur de transmettre ça. Et il était fidèle, 40 ans après, il était encore là. On l'a vu, hein, pour transmettre ça. Moi, ça m'a encouragé. Je dis, voilà, c'est mon rôle ce matin, c'est aussi de vous transmettre ça. Ça m'a encouragé. Mais c'est le rôle de chacun d'entre nous, de transmettre à ceux qui nous entourent ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait et qu'il nous décrit dans la parole de Dieu, oui, en priorité, mais aussi ce que Dieu a fait dans ma vie, parce que c'est aussi pour moi au XXIe siècle. Comment Dieu a répondu à mes prières? Comment il a exaucé, avant même parfois que je prie. Mais j'en aurais des histoires à raconter, et vous aussi. Si vous vivez avec Dieu, vous en avez des histoires à raconter. Mais on doit les raconter. Parfois on dit, oh là, lui raconte toujours des histoires avec Dieu, machin. Continuez, vous arrêtez pas. On n'est pas tous doués pour écrire des psaumes. Moi je pense que si j'essayais, ce serait la cata. Chacun son truc, quoi. Mais on peut parler. Et si on ne peut pas parler, on peut dessiner. Si on ne peut pas dessiner, on peut faire plein de trucs. Dieu n'est pas limité. Hein. Il y a de l'art qui existe, on peut faire de l'art pour transmettre. Peu importe les moyens que vous utilisez, mais transmettez ce que Dieu vous a montré, ce que vous avez vécu avec Dieu. Faites-le. Parce que sinon, la génération future, elle est perdue. Je voudrais qu'on regarde le psaume 73. Parce qu'on se dit, waouh, cet Asaph quand même. C'était quelqu'un. Hein. Ah, après tout ce qu'on vient de voir ce matin, c'était le gars qui était parfait. Quoi, hein. C'est... Quand même pour servir devant l'Arche de l'Alliance, et puis pouvoir louer l'Éternel, et puis quand même pour écrire des psaumes, ça devait être un certain niveau, le gars, il ne devait pas rigoler. Hein, c'était. Eh bien, Asaph, comme tous les autres hommes de la Bible, était un homme de la même nature que nous. Si vous regardez le psaume 73, hein, justement, c'est intéressant. Psaume 73, il est dit psaume d'Asaph, c'est lui qui écrit. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Jusque-là, tout va bien, on se dit. Ça correspond bien au Asaph qu'on connaît. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Je dis, mince alors, on parle du même Asaph là? Qu'est-ce qui lui arrive à cet Asaph? Comment il est lévite? Son papa, il sert à transporter l'arche de l'Éternel. Lui-même, il célèbre jour après jour les louanges de l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe dans son cœur et dans sa tête? Là, il dit que il porte envie aux méchants. Il porte envie aux insensés. Il allait fléchir même. C'est pas été sur le point de glisser. Attendez, on ne parle pas du même, c'est pas possible. Il n'aurait pas pu servir quand même l'Éternel avec ses pensées dans son cœur. Eh bien si, on parle du même. Parce que c'est un homme de la même nature que nous. C'est un homme qui est pécheur. Il a beau se sanctifier, il a beau faire tout ce qu'il faut, tout ce que prescrivait la loi, hein, pour se mettre en règle avec son péché, il avait beau... Il n'en demeurait pas moins qu'il était un homme. Mais un homme qui n'avait pas honte d'avouer ses péchés. Un homme qui n'avait pas honte d'avouer ses faiblesses. Quand même, transmettre à la génération future le fait que, pendant un instant, vous savez, j'ai convoité les méchants. Hein. Je les ai vus vivre là, ils avaient l'air heureux. Je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais là ce matin derrière ce pupitre? Peut-être que j'aurais bien fait de rester au lit chez moi. Après tout, il y en a qui sont au lit chez eux, ils ont l'air bien contents. Hein. Et peut-être que ça m'a traversé l'esprit. Peut-être que je me le suis dit aussi. Peut-être qu'il y avait réunion de prière et j'avais la flemme. Hein. Franchement, non. Alors là, je suis resté chez moi. Hein. Eh oui. Mais Asaph, il l'a écrit dans la Bible. Vous vous rendez compte? Tous les enfants de Dieu de tous les temps qui ont lu la parole de Dieu, le psaume 73, ils savent tous qu'à un moment donné dans sa vie, Asaph, il a porté envie aux méchants. Il y a quand même... Ouais, mais c'était quelqu'un qui était transparent, quelqu'un qui était honnête, et qui avouait ses fautes, qui avouait ses péchés. Il ne se faisait pas passer pour... parce que moi, je suis le chef des chantres et que hein, je chante les louanges de l'Éternel, hein, je suis saint, parfait et pur, et... Vous savez, la prière de ce pharisien, hein, je te loue, ô Dieu, que je ne suis pas comme ce publicain. Hein, moi, je donne, hein, il m'a dit, moi, je fais mes sacrifices, moi, je... Asaph n'était pas comme ça. Asaph, il savait reconnaître, je suis un pécheur. Et parfois, eh ben, je suis faible. Parfois, eh ben, moi aussi, il y a des pensées qui me traversent l'esprit, qui ne devraient pas me traverser l'esprit. Mais là, dans ce contexte, il dit parfois, ben, j'ai porté envie aux méchants. Je me suis dit, mince, peut-être que j'aurais mieux fait de faire comme eux. Mais il s'est ressaisi. Si vous lisez la suite du psaume, on n'a pas le temps de la lire aujourd'hui. Mais il s'est ressaisi. Parce que Dieu lui a montré la fin des méchants. Et il a dit, mais non. Moi, je marcherai avec l'Éternel. C'est la raison pour laquelle il a pu continuer son service. Malgré peut-être ses faiblesses, malgré sans aucun doute parfois ses chutes, parce qu'il était pécheur, il savait dire, je suis pécheur, Seigneur. J'ai péché. Pardonne-moi. David disait, purifie-moi, hein, avec de l'hysope, je serai pur. C'est... David pouvait crier blanc, plus blanc que neige. Après, mon cœur hein, était lavé de mes péchés. Asaph, il pouvait le faire. Mais parce qu'il était assez honnête pour avouer ses péchés. Moi, ça m'a encouragé de plusieurs points de vue, mais je vous en partage qu'un parce que je n'ai pas le temps de tout vous partager. Mais je me suis dit, Dieu peut se servir de moi, finalement, malgré qui je suis. Parce que quand je parle d'avoir la flemme d'aller à une réunion, pas parce que je suis pasteur que j'ai pas la flemme d'aller à une réunion. Hein. Moi, je suis comme tous les hommes. Hein. Des fois, j'ai la flemme d'aller à une réunion. Ça arrive. C'est dans mon cœur. Bien sûr, c'est dans mon cœur. Je suis pas parfait. Hein. Et parfois, je préférerais annuler et rester chez moi. Et oui. Et je me suis dit... Après, je me dis, mince, comment je vais arriver dimanche matin devant vous, ouvrir la Bible et vous dire, il faut suivre le Seigneur, hein. Il faut être zélé, il faut aimer Dieu, il faut être fidèle aux réunions. Alors que dans la semaine, dans mon cœur, franchement, j'avais la flemme. Oui, mais j'ai avoué ça au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé, un cœur nouveau. Hein, rallume la flamme, ravive. Seigneur, souffle par ton esprit, fais, je ne sais pas, tout ce qu'on peut prier. Hein, mais Seigneur, oh, réveille-moi, secoue-moi. Parce que ces choses-là ne viennent pas de moi. C'est une attaque de l'ennemi, que je ne me laisse pas décourager. Fortifie-moi, que je puisse prendre courage, me lever, aller encourager mes frères et sœurs, par ma présence, par la parole, par des cantiques, par une parole réconfortante, je ne sais pas. Mais Seigneur, réveille-moi. Et je me dis oui. Quand je vois Asaph, quand je vois sa fidélité, quand je vois sa persévérance, quand je vois 40 ans après, il était là pour la gloire de l'Éternel qui remplissait le temple, et quand je vois que ben lui aussi, il avait les mêmes pensées que moi, je me dis, mince alors, ça m'encourage. Non pas dans ma faiblesse et dans ma lâcheté, hein, mais ça m'encourage dans ma transparence envers le Seigneur à persévérer, à confesser mes péchés et à me tenir debout pour pouvoir faire ce que Dieu me demande. Dieu ne nous demande pas tous la même chose, hein, mais pour faire ce que Dieu me demande. Voilà ce que je voulais partager. Si je reviens pour conclure, quelques petites leçons sur la vie d'Azaph. Hein. Azaph, il était celui qui rassemble, c'est vrai. Et quand on le voit, il rassemblait autour de Dieu. Lisez les psaumes, vous verrez. Il rassemblait autour de Dieu, pas autour de lui-même. Vous savez, des fois, certaines personnes ont du charisme, c'est facile de rassembler autour de soi. C'est pas le but. Lui, il savait rassembler autour de Dieu. Est-ce que je sais le faire? Est-ce que je cherche à le faire? Est-ce que je suis conscient du privilège immense que j'ai en Jésus-Christ d'avoir Christ dans mon cœur, d'avoir un libre accès auprès du Père simplement parce que Jésus-Christ a payé pour mes péchés? Est-ce que j'ai conscience de ce privilège? Quel héritage je vais laisser après moi? Ah, du temps d'un tel? Ou bah, du temps d'un tel, ça craint. Ou du temps d'un tel, ah, du temps d'un tel, on se rappelle qu'on a vu Dieu agir. Par la fidélité des uns et des autres, on a vu Dieu agir. Comment est-ce que je transmets la parole de Dieu autour de moi? Lui, il écrivait des psaumes, chacun son truc. Dieu lui avait demandé. C'est quoi votre truc à vous? Comment vous transmettez la parole autour de vous? Comment vous partagez à la génération qui vient et à celle qui est déjà là ce que Dieu a fait pour vous? Comment vous les encouragez? Et ensuite, mes faiblesses, hein, mes péchés, mes manquements, bah, si je suis assez honnête pour les avouer au Seigneur, hein, et pour m'en repentir, ça n'empêchera pas Dieu de se servir de moi. Parce que c'est par grâce de toute façon. C'est pas parce qu'on mérite quoi que ce soit. On va prier pour terminer.